Radio Okapi. Le journal, présenté par Grace Hamzati Massandi.
À la une de l'actualité, plus de 30 morts et des dégâts matériels énormes enregistrés. C'est en tout cas le bilan provisoire des inondations causées par les pluies de vendredi à samedi dernier ici à Kinshasa, dressé par le ministère de l'Intérieur et Sécurité à travers un communiqué parvenu ce matin à Radio Okapi. Ce communiqué annonce également la mise en œuvre immédiate d'un plan d'évacuation pour une assistance préliminaire. Restez avec nous pour en savoir plus. Les prochaines élections générales en République démocratique du Congo sont prévues au mois de décembre 2028. C'est ce qu'indique la feuille de route pour le processus électoral 2025-2029, publié vendredi par la Commission électorale nationale indépendante. Pour Denis Kadima, président de la CENI, cette feuille de route constitue la boussole pour les années à venir. Le directeur général de l'agence Conseil Consulting Plus Congo est l'invité de ce journal. Joseph Potopoto nous parle d'un sommet citoyen mis en place par sa structure pour réfléchir sur le relèvement de la situation sociopolitique du pays. Bonjour à tous. Au moins 33 décès enregistrés à la suite des inondations et érosions provoquées par les pluies diluviennes survenues dans la nuit du 4 au 5 avril dernier à Kinshasa. Ce bilan donné par le ministère de l'Intérieur à travers un communiqué publié tard dans la nuit est encore provisoire. Le communiqué annonce aussi la mise en place d'une cellule de gestion des crises et la mise en œuvre immédiate d'un plan d'évacuation pour une assistance préliminaire. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui a participé à la réunion des crises convoquée par le ministre de l'Intérieur, donne les détails dans cet extrait sélectionné par Blaise Makassi.
Nous sommes réunis autour du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières pour justement trouver des solutions face à la crise dont beaucoup de nos populations en sont victimes. Nous tenons à présenter nos sincères condoléances aux familles éprouvées, mais également nous sommes de cœur avec des populations qui sont en souffrance. Les travaux s'effectuent aussi pour essayer de rétablir la situation de l'eau, parce que les infrastructures aussi liées à l'eau ont été touchées. D'ici 2 à 3 jours, la situation sera rétablie. Il y a aussi des préventions qui ont été mises en place pour épargner les ouvrages liés à la distribution d'électricité via la SNEL. Les travaux de curage sont annoncés pour justement maîtriser les érosions liées à cela. Donc, nous précisons à la population de s'apaiser. C'est justement des catastrophes naturelles. Mais le gouvernement de la République, mais également toutes les institutions ici présentes et la ville de Kinshasa est à vos côtés pour vous permettre, dans les heures qui viennent, de rentrer dans des conditions de vie acceptables.
Daniel Bumba, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, notait que le gouvernement annonce aussi l'installation des sinistrés de ces pluies diluviennes sur l'ancien site où étaient logés les athlètes lors des Jeux de la Francophonie. Et l'armée a déployé des véhicules pour assurer le transport des personnes bloquées 24 heures sur le boulevard Lumumba dans son tronçon compris entre le pont Matete et le quartier 1. Justement, cette autre conséquence de ces débordements de la rivière Ndjili à Kinshasa, depuis samedi, la circulation entre Tiangou et le centre-ville n'est pas fluide. Plusieurs familles ont passé nuit dans des véhicules sur les ponts Ndjili sans avoir l'espoir de sortir du calvaire. Sur place, il s'est créé une pratique de traversée pour les personnes qui ne veulent pas être mouillées par l'eau de la rivière Ndjili. Askin Zigbatayoro signe ce reportage.
C'est l'ambiance qui règne au pont Ndjili depuis le débordement de la rivière. Plusieurs familles ne savent plus prendre les véhicules. Ils préfèrent dépenser 5 à 10 000 francs congolais pour se faire transporter au dos afin de traverser les deux bouts du pont, soit pour aller vers le quartier 1 ou rentrer sur des bonhommes. Une femme de retour de la France par l'aéroport de Ndjili a passé nuit dans le véhicule. Une situation inadmissible pour elle.
Oui, je viens de la France. Depuis hier, on est bloqué ici. Ça fait plus de presque 24 heures qu'on va être ici. Pas de solution. Non assistante aux personnes qui sont là. Donc il y a des enfants. C'est vraiment pas normal.
Spectacle désolant pour les habitants du quartier Salongo. Plusieurs parents n'ont pas pu passer la nuit avec leurs membres de la famille dont les maisons ont été inondées. Aucune intervention de sauvetage n'est engagée pour évacuer plusieurs ménages envahis par les eaux. Certaines familles se lamentent et craignent pour leurs enfants qui sont bloqués dans des maisons inondées. Plusieurs alimentations qui s'ouvrent régulièrement à Tiangou chaque dimanche n'ont pas pu fonctionner. À l'aéroport d'Ndjili, certains vols ont été annulés.
Merci Askin Zigbia. À ce sujet, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, rassure l'opinion publique que ses services sont à pied d'œuvre pour une évaluation rapide, pour une réponse en urgence en faveur des victimes de ces inondations et dégâts de pluie de vendredi à samedi. De son côté, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba affirme que les éléments de la police nationale congolaise sont à l'œuvre sur place au pont Njili et les travaux de dragage sont très avancés. La circulation partielle a déjà commencé. Bientôt, il y aura normalisation. La population inondée est également prise en charge par le gouvernement. Nous venons justement de les dire. Au regard de ces débordements de la rivière Njili, dont les eaux se déversent sur la chaussée du boulevard Lumumba, le ministère des Transports, Voies de communication et désenclavement annonce quelques dispositions pratiques. Dans un communiqué publié hier sur son compte X, il invite les passagers dont les vols sont prévus aujourd'hui à emprunter les navettes par voie fluviale de Lonatra au départ de Beach Ngobila à destination du port Congo Future à Kinkole ou du port Safari Beach. Une fois arrivés à ces ports, les passagers pourront être acheminés par les bus de Transco jusqu'à l'aéroport de Njili. Situation similaire dans la province du Tanganyika où plus de 1000 ménages victimes des inondations causées par la montée du lac Tanganyika sont signalés dans la chefferie Rutuku, territoire des Kalemie. Selon le receveur comptable de la chefferie, les dégâts sont considérables et les victimes vivent sans assistance humanitaire. Dans une déclaration jeudi à la presse, il déplore aussi l'écroulement du bâtiment qui abrite le centre de santé de Rutuku. Assoumani Mbolela, receveur comptable de la chefferie Rutuku, dans ses propos recueillis par Ponle Munanga.
Nous sommes confrontés à des difficultés suite à des inondations. Plusieurs maisons se sont écroulées. Il y a ceux qui vivent dans des camps de déplacés, d'autres dans des familles d'accueil. Et il n'y a pas d'assistance humanitaire. Toute la chefferie est envahie par les eaux du lac Tanganyika. Nous n'avons pas de moyens pour assister les sinistrés. Nous avons enregistré jusqu'à 1500 ménages qui sont victimes des inondations. L'école Kasebou est aussi envahie par les eaux. Les enfants souffrent pour trouver un endroit afin d'étudier. Le centre de santé de Mulembwe n'est pas épargné. L'infirmier titulaire s'est débrouillé en érigeant des bâches pour soigner des malades. Pour les femmes qui donnent naissance, c'est un problème. L'infirmier sollicite les maisons d'habitation qui sont restées encore debout pour abriter une maternité de fortune. Nous demandons au gouverneur du Tanganyika de descendre sur place pour se rendre compte de la situation et même le ministre provincial de la Santé pour voir l'état déplorable du centre de santé de Mulembwe.
Pendant ce temps, le centre commercial de Luna, situé entre le nord Kivu et Ituri, se meurt peu à peu. Jadis prospère et animé, ces lieux de négoce brillent aujourd'hui par l'absence des activités commerciales. C'est à la suite de l'insécurité persistante dans cette région causée par les attaques à répétition des rebelles de l'ADEF. Conséquence, la circulation est coupée entre Luna et Komanda sur la route nationale numéro 4 qui relie la province du nord Kivu à celle de l'Ituri et de la Tchopo. Marc Marofimbo nous décrit la situation.
Il y a quelques années, Luna était célèbre pour ses activités socio-économiques. Aujourd'hui, Luna est devenue quasi désert avec des commerces qui n'ont cessé de fermer les uns après les autres. Des centaines de véhicules transitaient chaque jour par ces postes frontaliers du Nord Kivu pour se rendre à Ituri. Le soir venu, Luna s'est transformée en une petite ville où les activités socio-économiques se déroulaient jusqu'au petit matin, au bonheur des habitants qui faisaient de bonnes affaires. Seulement, entre-temps, les rebelles des ADEF sont passés par là il y a un peu plus de 4 ans. À la suite des attaques à répétition de ces rebelles, la circulation est devenue presque impossible sur cette route, notamment entre Luna et Komanda. Seuls quelques motards s'y risquent et même la plupart se limitent à Ndalia, Mambelenga ou Otmaber. Les bureaux de services étatiques sont aussi fermés, à l'exception de ceux des services de sécurité. Certains agents nostalgiques passent leur journée sous des arbres. Ils déclarent que c'est pour ne pas perdre leur poste. Ces derniers plaident pour le renforcement des opérations militaires dans cette région considérée comme grenier de deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Beni, Marc Marufimbo, Radio Kapi.
Comme annoncé au sommaire, la Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu public vendredi sa feuille de route pour l'exercice électoral 2025-2029. Pour le président de cette commission, ces documents retracent toutes les activités préalables à l'organisation des élections nationales, provinciales et locales de 2028. Plus de détails avec vous, Ronelyne Tibonera.
Il s'agit d'un document structurant les différentes activités de la CENI en 3 séquences. Pour la première séquence, la CENI prévoit les préparatifs et l'acquisition du matériel pour l'identification et l'enrôlement des électeurs dans une province pilote de septembre de cette année. Pendant ce temps, entre octobre 2025 et février 2026, période prévue pour l'acquisition complète du matériel, l'enrôlement proprement dit débutera en septembre 2026, soit un an après la phase pilote. Dans sa seconde phase, entre juillet et octobre 2028, la CENI procédera à la réception et au traitement des candidatures pour l'élection de députés nationaux. Cette étape sera suivie par la réception des candidatures de députés provinciaux pour se conclure en novembre 2028 avec la réception et les traitements des candidatures à l'élection présidentielle. L'élection générale, quant à elle, interviendra en décembre 2028 avant l'annonce des résultats provisoires en janvier 2029. La troisième phase de cette feuille de route, prévue pour avril 2029, met l'accent sur les élections des sénateurs, de gouverneurs, des maires, des conseillers urbains et de bourgmestres. Pour Denis Kadima, président de la CENI, je cite, cette feuille de route constitue notre boussole pour les années à venir. Elle est un outil de planification rigoureuse et un gage d'engagement de la CENI à remplir sa mission, a-t-il déclaré lors de la cérémonie de présentation de ses documents.
Autre aspect d'actualité sur la radio de la paix, à Mbujimayi, chef-lieu du Kassai oriental, la cherté de la vie continue de peser lourdement sur une population déjà fragilisée. Cette pauvreté structurelle est exacerbée par l'enclavement de la ville, le manque d'accès à l'eau potable et à l'électricité, ainsi que par l'absence d'infrastructures adéquates. La dépendance de la ville aux importations de produits de base, en provenance notamment de la Zambie et de l'Angola, renchérit considérablement les coûts pour des habitants déjà confrontés à la précarité. Sarah Soumbela.
Nous sommes au marché de Bakwadjanga, le plus grand marché de la ville. Les femmes commerçantes rencontrées ici expliquent que l'intégralité des produits qu'elles proposent à la vente provient d'autres régions, notamment Kolwezi, Mobavi Akalemi ou bien d'autres pays comme la Zambie ou l'Angola. Elle souligne que le mauvais état des routes et les coûts élevés des transports sont les principaux facteurs de cette flambée de prix. Pour les entrepreneurs locaux, cette cherté de la vie et les résultats combinés de l'isolement géographique de Mbujimayi et de la nécessité d'importer constamment les matières premières essentielles. Dominique Ilunga, directeur de la Fédération des entreprises du Congo FEC Mbujimayi, déplore quant à lui la récente fermeture de la Brassimba, un coup dur supplémentaire pour l'économie locale. Il insiste également sur l'impact dévastateur du manque d'électricité qui anéantit les initiatives entrepreneuriales.
Avec le problème réel de courant qui frappe l'économie de la province du Kassai oriental, ça empêche à ce que l'émergence d'une certaine économie basée sur l'agro-industrie se mette en place.
Malgré ces difficultés persistantes, une partie de la jeunesse de Mbujimayi refuse de se résigner.
Merci à vous, Sarah Soumbela. Revenons au Tanganyika pour vous dire que la population décrit la tracasserie militaire sur l'axe Kirungu-Kasenga dans le territoire des Moba. C'est confié samedi à Radio Kapi, l'élu provincial des Moba, Frédéric Kabunda, indique que les militaires des FARDC érigent des barrières sur cet axe et exigent de l'argent à chaque passant. L'administrateur du territoire des Moba s'est entretenu avec les commandants des FARDC en place sur cette question, nous dit Paul Mounanga.
Les députés provinciaux des Moba qui revient des vacances parlementaires précisent que trois barrières sont érigées par les militaires des FARDC au niveau de Kalongo, Kinsuli et Kakera. Selon lui, chaque passager à moto est contraint de donner 2000 francs congolais, à vélo 1000 francs et 500 francs pour les piétons. Et il signale que tout celui qui refuse de donner ces montants s'expose à un passage à tabac. Un élève a fait les frais, comme témoigne le député provincial des Moba, Frédéric Kabunda.
Ces cas de tracasserie, l'un des plus récents que nous fustigeons, c'est celui d'un élève qui serait en train de quitter son lieu de stage à Moulondé pour rejoindre son domicile qui serait à Kirungu. Cet élève ne détenait pas le 1000 francs tel qu'exigé. Il a été copieusement tabassé et il est grièvement blessé. Au moment où nous vous parlons, il est admis dans une structure de Kansamba.
Contacté, l'administrateur du territoire des Moba indique que les militaires érigent des barrières sur des postes de contrôle pour sécuriser la population contre des miliciens armés qui écument la zone. Victor Canfoy insiste sur le fait que ces postes de contrôle ne peuvent pas être supprimés. À propos de la tracasserie militaire sur ces barrières, il s'est entretenu avec les commandants des FARDC des Moba pour que cette pratique cesse.
Actualité internationale.
Ce 7 avril marque la journée internationale des réflexions sur le génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda. À cette occasion, l'UNESCO organisera une cérémonie commémorative en partenariat avec la délégation permanente du Rwanda auprès de l'UNESCO. Le 7 avril 1994 marque les débuts du génocide perpétré contre la minorité Tutsi par les gouvernements extrémistes Hutu. En un peu plus de 100 jours, jusqu'à 1 million de Tutsis ont été systématiquement assassinés. Des Hutus modérés et d'autres opposants au massacre ont également été tués durant cette période. Des cérémonies sont organisées également dans toute la France par l'association Ibuka pour ses 31e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda.
L'invité.
L'agence Conseil Consulting Plus Congo met en place un sommet citoyen constitué des experts de plusieurs domaines pour réfléchir sur le relèvement de la situation sociopolitique du pays. Notre invité, le directeur général de cette structure citoyenne, Joseph Potopoto, s'investit dans les domaines sociaux de base, notamment la communication, la médecine, l'agronomie, l'habitat, l'énergie, la cohésion nationale et autres secteurs de la vie en société. Il indique vouloir mener des campagnes de sensibilisation, organiser des émissions radio-télévisées et publier des ouvrages pour accompagner les actions de l'État pour répondre aux défis de reconstruction du pays pour le bien-être de tous. Joseph Potopoto s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Monsieur le Directeur Général.
Bonjour chers confrères.
Que retenir du cabinet d'experts Consulting Plus Congo?
Consulting Plus Congo se veut un cabinet d'experts pluridisciplinaire pour le renforcement de la stratégie communicationnelle institutionnelle, politique et sociale, à la fois des institutions, des organisations, des personnalités ou de tout autre client, qu'il soit commercial ou dans le secteur des affaires. Nous sommes également un institut des sondages et d'enquête parce que nous estimons qu'il est important de disposer d'un certain nombre de données pour pouvoir affronter les défis. Des données qualitatives ou quantitatives, statistiques, factuelles ou autres, qui déterminent l'état des lieux de certains secteurs d'activité du pays et même de l'opinion nationale sur un certain nombre de questions. Et nous voulons enfin être un sommet citoyen, donc une sorte de forum, plateforme d'échange, où nous allons échanger avec des Congolais, à travers des écrits qui vont rester, à travers des propositions que les uns et les autres pourront faire pour pouvoir orienter pistes de solutions par rapport aux défis de la reconstruction de notre pays.
Monsieur Joseph Potopoto, en 20 ans, quel bilan donnerez-vous à votre structure?
Nous avons travaillé d'abord en termes d'appui aux institutions. Le bilan, je peux dire, a été positif. Parce que nous avons travaillé à travers nos experts dans plusieurs domaines, mais à l'époque, j'étais encore fonctionnaire des Nations Unies, je ne pouvais pas afficher directement comme ça, mais mes experts ont travaillé, et moi-même aussi, nous avons travaillé avec d'autres agences pour un certain nombre de projets. Nous avons travaillé, par exemple, avec PMC, l'agence de Patrick Muyaya, pour la communication de l'Union européenne. Nous avons travaillé avec CMCT de Jean-Claude Eyalé. Aujourd'hui, nous avons réalisé les 5 chantiers de la République. Et même la révolution de la modernité du président Kabila, nous avons apporté aussi notre contribution en tant qu'experts. Et là, nous avons aussi réalisé une étude sur la vision stratégique du chef de l'État, mais que nous n'avons pas encore publiée. Nous avons pensé avoir l'aval de ce service pour pouvoir le publier.
Vous dites que vous avez fait assez. Alors, quelles sont vos perspectives d'avenir?
Les perspectives d'avenir s'inscrivent dans ce que nous appelons le relèvement du Congo. Dans tous les secteurs, même de la communication aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Il y a des gens qui communiquent sans avoir aucune maîtrise de science de la communication. On voit des communicateurs de ceci, des communicateurs de cela. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il faut absolument recadrer, faire un recadrage à la fois scientifique, et épistémologique et même technique du concept de la communication. Parce que tout le monde s'est dit communicateur, mais en réalité, il y a ceux qui distillent les discours de haine, ceux qui distillent les fake news, la désinformation, et cela crée une certaine confusion dans l'esprit des Congolais qui ne savent plus comment suivre les médias, comment suivre la communication, parce que tout le monde parle de toutes les manières et il faut absolument un recadrage scientifique. Voilà pourquoi nous pensons que, avec notre expérience, avec notre formation que nous avons, nous pouvons encore servir les Congos dans les domaines où nous avons beaucoup plus d'habileté. Et je profite de votre micro pour lancer un appel à tous les experts de toutes les disciplines possibles de nous rejoindre, parce que nous ne sommes pas seulement une agence de communication, mais nous voulons aussi être une agence qui fédère les intelligences, ces intelligences qui sont restées très longtemps sur le bord de la route, qui doivent maintenant entrer en action. Et comme le disait Albert Einstein, la capacité d'un homme ou la valeur d'un homme se mesure par sa capacité à donner. Et c'est un appel que je lance donc à tous les intellectuels de rejoindre Congo Consulting Plus pour donner le meilleur de même pour notre pays.
Monsieur Joseph Potopoto, nous vous disons merci.
Merci beaucoup.
Notre invité était interrogé par Blaise Ndongala. 7h20 dans ces studios de Radio Kapi Kinshasa. Ainsi prend fin ce journal coordonné par Jude Mister Bilanda et Jacques-Yves Molima et la mise en onde de Pierre Diassinois. Vous pouvez les réécouter sur www.radiokapi.net. Merci.